19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonsoir à tous. Ravi, on est vendredi et tranquillement, vous savez quoi, on va se poser pendant une heure au menu de ce programme désinformé jusqu'à 20h. Eh bien, vous savez quoi, on va revenir sur l'invité qu'on recevra tout à l'heure à 19h précise pour parler, vous savez quoi, de quelque chose complètement absurde, d'une nouvelle route du littoral qui fait polémique. Ensuite, nous reviendrons avec vous, 0153483000, sur ce fameux pass sanitaire. Le Sénat qui rejette en bloc le projet de loi permettant de le prolonger sans même l'examiner, eh bien ça fait débat. On en parle tout à l'heure. Mais également la recrudescence du cas de Covid. Macron s'adressera, ça y est, la date est tombée, aux Français, mardi prochain à 20h. Et on en parle aussi également au 0153483000. Le face-à-face, aujourd'hui, eh bien c'est Farid Tamsamani face à Hamid Chriette qui viendront sur ces deux sujets qui ont secoué la journée. Ensuite, 19h30 précise, comme tous les jours d'ailleurs, vous avez des signatures, des éditorialistes, et ce sera ce soir Michel Taube qui reviendra sur justement Emmanuel Macron qui s'adresse aux Français. On en saura peut-être un peu plus, il a été glané quelques infos. Voilà, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu, c'est parti.
Les informés, l'interview.
Et c'est Juba Taleb. Bonjour Juba Taleb.
Bonjour Adil Farkan, bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM.
Vous êtes journaliste indépendant d'investigation et vous, on s'est parlé, on a beaucoup échangé. Concernant, vous savez quoi, le littoral à l'île de La Réunion. Alors que certains me diront, mais pourquoi on parle de La Réunion? Tout simplement parce que vous vous êtes battu comme d'arrache-pied d'ailleurs. La Réunion aujourd'hui qui renonce à finir quelque chose qu'on appelle aujourd'hui d'absurde, hein, cette nouvelle route du littoral. Alors, rappelons d'abord la genèse de vous qui êtes journaliste d'investigation. Rappelons un peu la genèse de ce qui s'est produit.
Eh ben écoutez, je vous emmène à un peu moins de 10 000 km de Paris, à l'île de La Réunion. Vous l'avez dit, une île incroyable, une population totalement incroyable, qui a rencontré donc de sérieux problèmes, notamment lorsqu'il s'est agi du transport des gens à La Réunion, face notamment au nombre d'habitants qui a explosé. Face à ça, donc, deux possibilités, soit développer les transports en commun, ce qui a été pensé avant l'arrivée de Didier Robert, qui était donc président de région, oui, il y a très peu, ou bien une nouvelle route du littoral qui n'a rien de nouveau, rien d'ancien, en fait, qui est juste mauvaise, une mauvaise route du littoral qui avait comme principe de passer au-dessus de la mer, une route qui avait comme ce record de coûter très très cher, plus de 1,6 milliard d'euros à sa genèse, mais qui aujourd'hui dépasse les 1,6 milliard d'euros.
Judas Taleb, je le rappelle aussi, vous êtes un ancien de Beurre FM. Justement, qu'est-ce qui vous a frappé durant cette enquête? Qu'est-ce qui vous a surpris? Justement, aujourd'hui, j'ai une question toute simple. Avant de me répondre à la question, qu'est-ce qui vous a surpris durant cette enquête? Finalement, c'est un peu du gâchis. On n'aura fait que la moitié de cette route du littoral.
C'est du gâchis, évidemment. Pour le moment, on en a encore, alors que les 2 milliards d'euros ont été dépassés, hein, sur ce projet, alors qu'on le rappelle, 1,6 milliard d'euros étaient prévus à la base, plus de 2 milliards d'euros pour une route qui n'est pas finie.
Enfin, une gigantesque viaduc de 5,5, c'est ça, kilomètres?
Ce qui est a priori rien, hein, parce que la route des Tamarins qui était grande de 30 millions d'euros, de 30 kilomètres, a coûté moins cher que ce viaduc de quelques kilomètres, vous l'avez dit. Mais ce qui m'a frappé vraiment, c'est de pouvoir mettre 2 milliards d'euros sur ce projet, alors que plus de 40% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça c'est frappant, comment on peut développer sans avoir analysé, sans avoir eu une expertise cohérente et d'avoir jeté, parce que c'est le mot, plus de 2 milliards d'euros pour un projet. On en est à plus de 2 milliards aujourd'hui, mais c'est loin d'être fini, ce viaduc. Moi, je m'entretenais avec la région il y a quelques jours et il me disait que pour le moment, une grande partie allait finir, mais il le prévoit pour 2022. On n'en est toujours pas sûr. Le projet total devrait finir en 2028.
En 2028. L'abandon de la route sur digue, justement, est-ce que c'est un immense soulagement pour certains?
Il n'y a pas encore d'abondant, en fait, justement. C'est là que se pose le problème, en fait. Là, il y a eu un changement de président de région. Il y a eu Guette Bello qui est arrivé, qui a succédé à Didier Robert. Il n'y a pas d'abondant, en fait. Pour le moment, on continue. Il y a eu des échéances qui ont été repoussées. Rappelons que l'intégralité du pont aurait dû être livrée en mars dernier, ce qui avait déjà été repoussé. Et pour le moment, on parle de 2028. Mmh. Ce qui prévoit évidemment des coûts supplémentaires. On est à déjà plus de 2 milliards. Mais en fait, le problème, il est où? C'est au niveau des matières premières. Parce qu'on se lance dans la finition d'un pont, sauf qu'à La Réunion, le problème, c'est qu'il n'y a pas de matières premières pour finir la
roche, etc. On vous entend très mal, Juba Taleb. On vous entend très très mal. Allô, allô. On vous entend très très mal.
Ça c'est une réalité. Moi, j'ai des éléments qui montrent que.
Allô, mon cher Juba.
Parce qu'il avait des intérêts avec des amis.
Non, on est en contrat parce qu'il s'est passé quelque chose là sur la ligne. Il y a un petit souci sur la ligne. Allô? On va vous rappeler, Juba Taleb, parce que on a un gros souci sur la ligne. Je pense que là, on vous entendait à deux reprises. La voix était en répétition, elle était en boucle. Donc, il y a quelques soucis. Ben, écoutez, on va essayer de tenter de le retrouver, justement, pour essayer de mieux comprendre les conditions de circulation. Je rappelle juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, les conditions de circulation sur l'île, elles sont très mauvaises. Et je voudrais qu'on en parle. C'est vrai, elles sont très mauvaises aujourd'hui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce projet, évidemment, pour certains veulent voir le jour. Dites-moi, Juba Taleb, on vous a retrouvé?
Oui, exactement.
Il y avait un problème avec la ligne. Dites-moi, régulièrement, les conditions de circulation, je disais à nos auditeurs, sur l'île, elles sont très mauvaises, hein, parce que on compte 860 000 habitants, 450 000 véhicules qui circulent sur le territoire, qui représentent environ 2500 km², d'accord? Aujourd'hui, la problématique des transports, elle est donc vitale à La Réunion, si j'ai bien compris.
Elle est incroyablement vitale parce que le nombre de gens est en train d'exploser. Et au départ, je le disais, il y avait un projet de transport en commun qui a été balayé d'un revers de main par l'ancien président Didier Robert, qui a décidé donc
de
nouvelle route du vol, cette nouvelle route de la honte, nouvelle route du littoral, et qui donc il y avait un projet, vous l'avez dit, Adil, c'était de faire le tram-train qui était un train qui permettait de transporter de plusieurs milliers de personnes et de développer les transports en commun, qui aurait créé évidemment de l'emploi aussi.
Donc on peut considérer qu'aujourd'hui l'île de La Réunion, il y a cette dépendance à la voiture aujourd'hui?
Exactement. Grosse dépendance à la voiture. Heureusement que les coûts quand même du pétrole sont moindres par rapport à Paris. On l'a vu, les prix sont en train d'exploser à Paris. Il y a quand même des prix du pétrole, des prix à la pompe qui sont relativement moins chers qu'en métropole, que je ne saurais pas vous expliquer. Mais oui, la voiture est indispensable ici à La Réunion et pour les Réunionnais. Pour le transport en commun, totalement laissé à l'abandon par les pouvoirs publics.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se produire, même si on parle de 2028? Que va-t-il se passer concrètement concernant justement cette fameuse route du littoral, qui est d'ailleurs été en débat à l'Assemblée plénière de la région, hein? Elle a fait l'objet d'un débat.
C'était la semaine dernière, moi je me rappelle, j'étais sur Radio Freedom la veille, la radio la plus écoutée ici, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on n'en parle pas, en fait. Tout ce que je suis en train de vous dire là, moi je suis arrivé quand j'ai pris le dossier en main, l'année dernière, avec un camarade à moi, un ami journaliste, quand on a pris cette enquête en main, on a été choqués, parce que toutes les rédactions le savent, mais il y a une forme d'omerta ici, on n'en parle pas du tout, et donc ce qui a été décidé à la suite de l'Assemblée plénière ici à l'île de La Réunion, c'est poursuivre le trajet. Moi, je me suis entretenu avec la région qui m'a assuré avec la nouvelle majorité que ce viaduc avait des chances de se finir avant décembre 2022. Moi, je vous dis honnêtement, au vu des éléments que j'ai eus, moi, j'y crois moyennement, mais c'est des objectifs qui se fixent. Hein. Ils fixent ces objectifs-là, en tout cas pour aller. On parle de 10 km sur les 12,5 km prévus à la base.
Une prouesse technique, hein. Non? Et on peut le reconnaître quand même qu'il y a une prouesse technique quand même exceptionnelle concernant évidemment ce chantier.
prouesse technique. Oui, mais bon, est-ce que c'était vraiment... c'est, en fait, pour expliquer aux auditeurs, c'est la route qui passe au-dessus de la mer. Ça a été...
Au-dessus de la mer, c'est ça, oui, exactement.
Au-dessus de la mer, une vraie prouesse technique. Mais aujourd'hui, on voit le résultat. Est-ce qu'on a voulu faire... beau ou est-ce qu'on a voulu faire efficace? Je pense qu'on a plus voulu faire beau, on a plus voulu faire du sensationnel. Moi, ce que je peux dire, c'est que on aurait pu se lancer dans la construction d'un monument. Ça aurait coûté moins cher et au moins on aurait dit, ah, c'est beau. Là, on était quand même censé désengorger une route. Là, aujourd'hui, les Réunionnais galèrent dans les bouchons. C'est tous les jours la même galère et finalement, ça m'inquiète. Personne de se poser la question de cette nouvelle route du temps.
Bon, alors qui va dépasser, qui va payer les dépassements du budget et comment va se terminer ce chantier si vous nous parlez de 2028?
Alors, il faut le dire, hein, c'est un projet qui a été quand même en grande partie financé par l'Union européenne, qui a donné son aval, qui a mené les travaux, qui a mené des commissions pour notamment la construction de carrières, pour essayer d'aller chercher autant que puisse se peut, autant de la matière première. Mais pour le moment, l'Union européenne ne veut plus se relancer là-dedans. La région a appelé l'État à participer, mais moi, je vous dis la vérité, pour le moment, budgétairement, on est dans un flou total, parce que là on l'a dit, hein, il y a encore des entreprises qui demandent des sous sur ce qui a été fait, hein, ce qui a été fait depuis 2015, et là il faudrait encore relancer sur 600 millions d'euros minimum. Enfin, c'est un puits économique, c'est une machine à bouffer de la thune du contribuable européen qui n'en finit plus. Et ça, je n'ai jamais vu. Et je me suis toujours dit, mais comment en France, en 2021, un gouffre financier pareil a pu être maintenu? Avec quelle complicité? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que on puisse continuer une route aussi chère et aussi peu efficace, en fait? Parce que ça n'est que quelques dizaines de kilomètres, en fait.
Eh bien, nous allons regarder ça. Effectivement, il y a des interrogations, de grosses interrogations encore. Juba Talet, vous êtes journaliste indépendant d'investigation justement à La Réunion. Merci d'avoir été avec nous concernant cette fameuse route du littoral, justement, qui a provoqué une grosse polémique. Et d'ailleurs, le débat ne fait que commencer, si j'ai bien compris.
Exactement, je vous l'ai dit, hein, on le sait tous, en fait, il y a eu des débats depuis des mois, des années, en fait, mais parce qu'il y a eu des hauts là, mais bon, là, on se rend vraiment compte, à la suite de l'Assemblée plénière, qu'il y a vraiment quelque chose de très, 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 très louche et qu'il y a eu visiblement des conflits d'intérêts sur ce projet, des versations d'argent qui ne s'explique pas, parce que faut le dire, là on dépasse très largement le budget provisoire, quoi. On partait avec 1,6 milliard, on va visiblement arriver aux 3 milliards. 3 milliards pour information qui correspondait au budget qui était prévu pour le train-tram au départ et qui a été balayé par Didier Robert. Il y a
des gros doutes. Bien, merci Juba Taleb d'avoir été avec nous. Tenez-nous au courant, hein, bien sûr.
Oui, oui.
19h13, justement, 01 53 48 3000, je vais ouvrir le standard pour vous entendre partout en France nous parler du pass sanitaire qui lui a été retoqué par le Sénat. Il rejette en bloc la prolongation, mais surtout la recrudescence du cas de Covid. Macron s'adresse aux Français mardi 20h. Et si on parlait d'un confinement, les amis, oui, non, hier certains nous disaient non. Eh bien, on va en continuer d'en parler. Est-ce que vous redoutez le pire? 01 53 48 3000, je vous attends. Et venez, justement, nous faire vivre votre avis. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Hey, 19h19, précisément, dans les informés. Justement, alors, les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Alors les amis auditeurs, moi je vous attends partout en France justement. Macron, il envisage de s'exprimer devant les Français très prochainement. Ce sera, ça y est, la date est tombée tout à l'heure. Mardi à 20h. Alors est-ce que on peut considérer que face au constat critique de l'OMS, je sais qu'on est vendredi, j'ai pas envie de plomber évidemment le week-end, mais alors comme on sait qu'Emmanuel Macron s'adresse aux Français, est-ce que... Alors il pourrait rendre obligatoire la troisième dose. Je vous le dis tout de suite, ça c'est clair. Alors ensuite, il y a l'OMS qui s'alarme du niveau préoccupant de transmission de la Covid-19. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous, vous considérez aujourd'hui qu'il y en a ras-le-bol de parler de nouveau du Covid, ou est-ce que bien au contraire, vous pensez qu'il faut continuer à sensibiliser la population? 01 53 48 3000 partout en France, je voudrais vous entendre et on échange ensemble, justement, le standard est ouvert. En attendant vos appels, eh bien je vais accueillir le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face est avec Farid Temsamani, le retour de Farid Temsamani. Bonjour, consultant.
En intelligence économique, notamment.
Comment ça va, mon cher Farid?
Très bien, merci Adil.
Plaisir de vous revoir.
Pareillement.
Nouvelle coupe, nouveau costume, nouveau tout, nouveau look.
Nouvelle vie.
Je ne voudrais pas commettre d'impair.
Non, pas de nouvelle vie.
Face à lui, c'est Amit Chriette, qui est éditorialiste. Bonjour Amit Chriette.
Bonjour.
Comment ça va? Attendez, on va ouvrir votre micro. Le micro Yanis, le réalisateur, le micro de notre ami.
Ah, je peux changer là?
Voilà. Amit, comment ça va?
Merci, très très bien, merci beaucoup.
Vous arrivez de Londres, tout va bien?
Ouais, tout bien, ça va. Toujours sur les médias anglais.
Je vous ai entendu.
Vous avez vu mes dernières interventions.
Qu'est-ce qui vous arrive là? Je vous êtes arrivé.
Bah écoutez, les médias anglais nous donnent la parole, donc on
s'exprime. Hier, Emmanuel Dupuis,
j'ai mis
les génériques de Rambo. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à notre ami?
On collabore avec des chaînes internationales anglaises.
Il va lui trouver une petite musique.
Apparemment, les Anglais sont beaucoup plus, je dirais.
On va vous détendre, Amit.
Aux compétences.
On va vous trouver.
Républicaine.
On va vous trouver une musique.
Non, pas républicaine, justement. Ouais. Aux compétences tout court, les Anglais, pas républicains. C'est une insulte à dire républicain en Angleterre.
C'est
une monarchie.
C'est une monarchie,
oui, mais bon, ils ont des valeurs républicaines aussi.
Oui. Non.
Pas. Les valeurs républicaines sont universelles, on m'avait dit.
Oui, c'est vrai.
Non, mais tu as complètement raison.
D'accord. Vous avez raison.
Mais chez eux, on dit pas républicaine, c'est ça?
Oui, mais là, on est en France.
Je sens que le face-à-face va être chaud.
J'essaye de me mettre au diapason en fonction de la localité géographique.
Alors, Farid Temsamani, justement, on a quelques appels, 01 53 48 3000. Eh bien, on vous attend justement sur le Covid, bref. Sur votre sentiment, votre avis là-dessus, et si la situation se durcissait. Alors, messieurs, avant de retrouver nos auditeurs 01 53 48 3000, vous savez que Emmanuel Macron, il s'exprime mardi à 20h.
Le président de la République.
Oui, bien sûr. Et face au constat critique de l'OMS, alors qu'il évoquait, moi je ne sais pas si le chiffre, 500 000 de morts de la Covid en Europe d'ici février.
500 000.
Bon, je ne sais pas comment on peut mesurer tout cela. Mais surtout, ce qui m'interpelle, messieurs, c'est que le gouvernement pourrait rendre obligatoire une troisième dose. Farid Temsamani, est-ce que la situation risque pas de s'envenimer davantage en France, alors qu'elle est explosive?
Alors, un, je ne le souhaite pas. Deux, j'espère que non, en France en tout cas. Le chiffre d'un demi-million en fait sur l'Europe, c'est quand on prend l'ensemble du continent européen. Et je me demande si on ne met pas la Russie dedans, en réalité. Il y a des pays, on va parler des pays qui sont très voisins, tels que l'Allemagne, où effectivement il y a une recrudescence de l'épidémie.
Est-ce que ça se dégrade?
Voilà. Je pense qu'en France, elle est relativement maîtrisée.
Elle est maîtrisée.
Pour une raison très simple, c'est que les gens, on a quand même une couverture vaccinale en France qui est relativement importante. Je connais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a
90%.
90%,
86,6.
Voilà, je connaissais pas les chiffres, mais ce qui est quand même.
Ah ben, je vous le dis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est.
À Paris,
on fait partie des.
À Paris, je crois que c'est 92 ou un truc comme ça.
Bon, 92 à Paris. Ça veut dire qu'on fait partie des meilleurs élèves de la planète sur la vaccination. Je rentre pas dans le détail de savoir si c'est utile, pas utile. À mon avis, ça l'est complètement. Là, ce qu'il faut comprendre.
Les auditeurs, certains vous diront non, c'est pas
oui,
utile.
Non, mais
on les attend 01 53 48.
Non, mais ils ont certainement leurs arguments. En tout cas, il y a plus de presque 90%. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, j'en fais partie. Donc du coup, c'est-à-dire.
Alors pourquoi Macron s'exprime?
Non, mais je pense qu'il y a une.
Il s'inquiète?
Il y a une vigilance.
Il est inquiet?
Non, mais moi je.
Il est inquiet, notre.
Mais
à
dire.
Mais
à
dire.
Et à quoi sert le vaccin?
Non, mais moi je vais essayer de.
Non, à quoi sert le vaccin?
Non, mais faut pas parler de troisième confinement ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Il y a toujours. Non, mais faut pas oublier une chose. Il y a des gens qui meurent tous les jours du Covid, de la Covid.
Oui, c'est vrai, ça
continue. Il y a des gens qui guérissent tous les jours aussi.
Exactement, tu vois. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu de respect pour les gens qui en souffrent. Il y a une réalité. Il y a une couverture vaccinale qui est très importante en France. Ce qui a permis. En tout cas, pour les plus optimistes.
Mais ces prévisions sont effrayantes quand même, non, de l'OMS.
Non, je pense qu'en France, la France.
Pourquoi l'armée?
Parce qu'il y a des pays, la Russie par exemple, où en fait il y a beaucoup de morts. par jour. À l'heure où on parle, vous avez, alors on n'est pas la même population, il y a quand même une population beaucoup plus importante en Russie, mais si on prend un pays qui est comparable, entre guillemets, à la France, qui s'appelle l'Allemagne, il y a quand même beaucoup de morts aujourd'hui en Allemagne par rapport à la France. Et donc du coup, il faut quand même anticiper. Moi, ce que je voulais juste dire, je suis absolument pas médecin, je suis pas du tout spécialiste de ce genre de choses, mais ça ressemble grandement, en tout cas cette pandémie, ce virus-là, un peu, même si je veux pas le comparer, un peu à une grippe, dans le sens où en fait ça revient régulièrement tous les ans. Là on rentre, je connais rien encore une fois, je suis pas médecin, mais on rentre.
Donc les hospitalisations,
on rentre en hiver,
devrait remonter.
Et voilà. Novembre. Et ce qui est malheureux et ce qui moi me choque par contre, c'est qu'en fait notre raisonnement il est par rapport au nombre d'hospitalisations. C'est-à-dire qu'en fait notre capacité, en tout cas le système de santé, la capacité du système de santé à absorber ou non justement une augmentation de malades. C'est ça qui me dérange un peu. Donc voilà, va-t-il s'exprimer pour dire qu'il faut faire attention? Enfin, moi je vois pas l'intérêt de l'expression du président de la République
demain.
C'est
pour ça que je voudrais qu'on en parle. Moi je vois pas.
T'as pas le but de la santé?
Si c'est pour nous dire.
J'ai pas compris. Moi.
Je vous confine, je veux bien l'entendre. Si c'est pour dire.
Après Adil, on va pas se mentir.
Oui.
C'est la campagne électorale. C'est tout un fichage. Donc je pense qu'il va profiter de ça pour s'exprimer une fois de plus devant les Français. D'un point de vue de la santé, je vois pas l'intérêt en tout cas.
Bon, Amine Shriat, on vous a pas entendu justement.
Attendez, moi je pense qu'il y a plusieurs choses à distinguer. Le rôle des scientifiques, effectivement, c'est d'alarmer, c'est d'alerter effectivement. Il faut avoir des gestes barrières. Le taux de la vaccination globale, elle a joué un rôle effectivement. Il n'y a pas eu d'épidémie, etc. Parce que le vaccin a une efficacité. Ça, ce sont les scientifiques et les docteurs qui le disent. Moi, je suis pas spécialiste, mais c'est un fait. On a trois fois moins.
On avait un médecin hier qui nous disait clairement que la situation.
La plupart des hospitalisations, c'est ils ont les derniers chiffres.
Les derniers chiffres
nous montrent.
Docteur Majid, c'est aussi.
Les derniers chiffres nous montrent que la plupart des hospitalisations, ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Je crois 8/10 apparemment. Voilà, les gens qui sont hospitalisés, etc., qui font des formes graves. Après, effectivement, c'est un virus dont on doit vivre avec, je dirais, qui fait partie aujourd'hui.
Quand vous dites vivre avec, ça veut dire comme Farid Amsamani, chaque année on va se le retaper.
Qui mute
jusqu'à sa disparition, tout simplement.
Voilà, pour l'instant, on parle pas de variant, en tout cas. Il a muté, etc.
Le virus, celui qui circule aujourd'hui, je suis pas médecin, donc je veux pas m'avancer sur des choses que je maîtrise pas, mais c'est pas la première version de ce qu'on a connu en mars 2020.
Mais la couverture vaccinale, en tout cas, a joué un rôle déterminant de protection dans les pays européens. 500 000 morts, effectivement, en Europe, c'est vrai qu'on alerte, mais c'est rien par rapport à la population globale, totale en Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas aujourd'hui abstreindre les libertés, effectivement, en fonction de ça, en mettant des passes sanitaires, en obligeant de se faire vacciner, etc. Il y a effectivement un débat sur la question des états de droit. Il faut avoir un débat aujourd'hui européen. L'Europe doit, au lieu de s'inquiéter du virus, elle doit aussi se remettre en question sur plusieurs aujourd'hui projets, notamment la question de la liberté, etc. En même temps, l'Union européenne nous dit qu'il ne faut pas obliger les gens à les faire vacciner. Le Conseil de l'Europe a effectivement fait voter une résolution en ce sens-là. Plusieurs pays européens font le contraire, dont la France, dont le président de la République Emmanuel Macron. Il n'a pas tiré les leçons de la gestion de la crise du Covid. Et en plus, le troisième argument qui est important, c'est la question économique. Aujourd'hui, la France ne peut pas se permettre de faire un confinement ou etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question de la vaccination en Europe, certes, les scientifiques ont le droit et ont le devoir d'alerter la population, mais il faut avoir raison garder et effectivement continuer à respecter les gestes barrières.
Ben on a l'impression que ça a essayé un relâchement.
De la pédagogie,
on a l'impression qu'il y a un relâchement justement. Alors le gouvernement, est-ce qu'il a raison de resserrer justement la vis concernant le retour de masques à l'école, de rappeler un certain nombre de choses? Farid Amsamani, est-ce qu'il a raison?
Oui, enfin le gouvernement est dans son rôle d'anticipation, de protection. S'il le faisait pas, eh ben on lui reprocherait. Donc pour moi, ça me choque pas du tout. Maintenant, il faut raison garder, c'est-à-dire que quand il fallait vraiment le faire, voilà, il faut quand même revenir un peu à l'histoire, malheureusement, de cette pandémie. Quand il fallait vraiment le faire, il l'a pas toujours bien fait, pour être honnête. Là, il le fait. Bon, c'est peut-être un peu excessif pour certains. Moi, ça me choque pas du tout. Au contraire, moi, tant qu'on peut sauver des vies, tant qu'on peut sauver des gens, voilà. Là, on rentre en hiver. L'année dernière, si vous vous souvenez, il y avait un certain nombre de maladies qui avaient quasiment disparu, notamment la grippe qui avait complètement disparu et d'autres maladies. Là, cette année, apparemment, il semblerait que ce soit pas forcément le cas. C'est-à-dire que il y a quand même une recrudescence en plus du Covid de certaines maladies qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Donc du coup, je pense qu'il faut faire très attention. Et effectivement, les enfants. Je reviens, Adil, sur un élément que tu as évoqué, notamment sur l'histoire de la troisième dose. Faut bien faire comprendre aux gens.
J'y arrive. de rendre la troisième dose obligatoire.
Bon, je ne sais pas s'il faudra la rendre obligatoire ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les doses de vaccins, c'est une certaine immunité. Et moi, j'invite vraiment les auditeurs à, pas régulièrement, mais une fois dans l'année peut-être, à vérifier son immunité par rapport au virus du Covid. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a été vacciné, même les deux doses par exemple, qu'à un moment donné, votre immunité, elle est toujours certaine. C'est pour ça que potentiellement, une troisième dose ne serait pas complètement inefficace. Encore faut-il qu'elle soit prouvée, etc. etc.
Ahmed Chriet, troisième dose ?
Non, écoutez, on la rend obligatoire. Moi, je suis contre cette troisième dose. D'abord,
vous êtes contre ?
Oui. D'abord, la troisième dose, vous avez oublié de le préciser, c'est pour les gens qui sont effectivement qui ont des formes graves, des formes effectivement diabétiques, cholestérol, etc.
Fragilité, ouais.
Voilà. Et par conséquent, moi, je ne vois pas pourquoi les gens feront une troisième. Faut laisser le libre choix aujourd'hui. Ce gouvernement-là, qu'on ne sait pas, doit revoir la notion de l'état de droit. On va d'ailleurs parler du deuxième sujet. On le voit bien. Ce gouvernement passe en force systématiquement, en fait. Il n'a plus le son de la démocratie. Passe en force sur tous les projets. Passe en force.
Pourquoi ? Mais il a fait voter.
Sur le pass sanitaire,
il a fait valider par les députés.
Aujourd'hui, il ne concerte pas. Il prend des décisions, bien évidemment, sur l'affaire des gilets jaunes, sur la question du pass sanitaire. Ce gouvernement est sans cesse dans le clivage.
Voilà. Mais c'est.
Non,
mais
je ne sais pas où vous vivez, mais si vous n'êtes pas au courant que l'Assemblée nationale a fait voter de force ce pass sanitaire là.
De force.
Oui, de force.
Donc on a forcé les députés, c'est ça ?
Bien évidemment.
On a attrapé les députés, on les a bâillonnés, on leur a dit vous allez voter ça.
Non, mais d'abord, quand on prend pas en compte effectivement les territoires. Hein, quand on ne prend pas en compte les territoires, la spécificité des territoires sur la question de la vaccination, quand on ne concerte pas avec les associations, quand on ne concerte pas avec les sénateurs, quand on ne donne pas la parole aux citoyens lambda, quand on fait des fake news, quand on crée des fake news sur la question, est-ce que vous voulez que je vous rappelle la gestion, comme vous n'allez pas défendre comme la gestion de ce gouvernement.
Je défends personne, moi.
D'accord, bah voilà. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi alors ?
Non, moi je suis pour un principe de justice et d'honnêteté intellectuelle. Vous me dites, on a forcé les gens à voter ça.
Ce gouvernement-là, en tout cas, passe en force systématiquement. La preuve, c'est que
qu'est-ce que vous faites dire qu'ils ont voté
Attendez, je vais vous dire. Tous les partis politiques
il y avait une contrainte ?
Bien évidemment, une contrainte. La majorité des partis politiques aujourd'hui ont fait un recours au Conseil constitutionnel. On en est là aujourd'hui.
Ouais.
Si les partis politiques
alors, aujourd'hui, ça quoi
vous le savez.
Ça a donné quoi ?
On attend.
On attend.
Non, mais juste à présent. Non, parce que l'histoire, vous avez dit précisément.
Pour des raisons électoralistes. Ça vous a pas.
Donc, quelles sont les raisons électoralistes?
Pour museler la campagne présidentielle. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le gouvernement, derrière sa stratégie.
Ouais, alors
continue d'en parler. Justement, on continue d'en parler. Il est 19h32 avec quelques minutes de retard. Nous allons retrouver le Quad 9.
On va voter par votre.
Les informés. Le Quad 9.
Pardonnez-moi, le débat continue. Justement, le face-à-face. Je retrouve une des signatures quotidiennes, justement. Vendredi, qui dit vendredi, c'est Michel Taube, le patron, fondateur de l'Opinion Internationale, le Média en ligne. Bonjour Michel Taube.
Bonjour, bonsoir, bonjour à vous Adil, et bonjour aux auditeurs de BRFM et à vos contradicteurs du soir, parce qu'on va parler de la même chose.
Bonsoir. Sujet. Exactement, vous allez parler de la même chose, parce que vous avez décidé justement de parler de l'allocation qui est tombée, ça y est, c'est désormais officiel, on le sait, c'est mardi prochain que le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprime, et vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, au Covid, et concernant l'allocution d'Emmanuel Macron, on vous écoute.
Alors écoutez, en fait, effectivement, c'est à chaque fois que le président de la République veut s'adresser aux Français, il y a le Covid qui passe par là comme un sparadrap qu'on n'arrive pas à enlever de sa main. Rappelez-vous, le 12 juillet dernier, c'était la dernière allocution officielle du président de la République aux Français. Il avait prévu de parler de l'avenir du pays, de la France d'ici 10 ans avec son projet d'investissement à objectif 2030. Et puis l'aggravation de la crise du Covid l'a obligé à ne parler que du Covid et annoncer l'obligation du pass sanitaire pour tous les Français qui voudraient continuer à vivre normalement, aller au restaurant, aller dans les musées, etc. Et donc, voilà que 3 mois, 4 mois, 5 mois après, il avait dit qu'à l'automne, il reparlerait aux Français. Il voulait parler peut-être plus d'une sorte d'avant campagne électorale. Et ben non, le Covid revient. Et c'est vrai que, alors pour le moment, il n'est pas trop fort en France, mais enfin quand même, la courbe épidémique, elle augmente, notamment des personnes qui attrapent le Covid. Mais c'est vrai qu'on est pris un peu en tenaille entre deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a une très très forte reprise épidémique dans l'Est de l'Europe, en Russie, en Europe de l'Est. Ça commence à arriver en Allemagne assez fortement. Il y a une recrudescence importante du Covid en Allemagne.
Oui.
Et au Royaume-Uni, il y a aussi une augmentation importante. Donc en France, ça commence à augmenter, mais c'est pas encore trop inquiétant. Mais je pense que quand même, il y a danger, j'ai envie de dire.
Vous dites qu'il y a danger.
Ah oui, bon. je pense qu'il y a danger. Okay, okay. En fait, si vous voulez, c'est là, on va connaître un peu l'heure de vérité de tout le dispositif vaccinal qui a été mis en place.
Pourquoi ?
Parce que si on suit la politique qui a été mise en œuvre par le gouvernement, et en France, comme dans de très nombreux pays dans le monde, grosso modo, on nous a dit la vaccination, c'est le meilleur rempart contre les formes graves et bien entendu les décès du Covid. Donc là, on va voir, on est arrivé à un moment où il y a une très forte reprise épidémique en Europe. Mais oui. La question, c'est va-t-il y avoir beaucoup de personnes hospitalisées et de personnes mortes ? Ce matin, il y a l'OMS qui a fait un communiqué de presse extrêmement alarmant pour dire que, tel que c'est parti en Europe, la crainte de l'OMS, c'est qu'il y aura encore 500 000 morts d'ici la fin de l'hiver en Europe. Donc, si vous voulez, d'un côté, il y a les alarmistes comme l'OMS, et de l'autre, ceux qui disent non, grosso modo, on a assez de personnes vaccinées qui sont protégées. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le président de la République, il va faire un peu comme le 12 juillet. Le 12 juillet, il a tiré la sonnette d'alarme, et j'ai envie de dire, quasiment pour la première fois dans son quinquennat, il a fait preuve d'autorité en prenant une mesure, certes autoritaire, mais qui a été suivie par les Français, avec plus de 7 millions d'entre eux qui se sont vaccinés dans les semaines qui ont suivi son discours du 12 juillet. Et donc je pense que, permettez-moi de faire un peu de prédiction, et c'est, je prends le risque d'être démenti par le chef de l'État mardi, je pense que mardi, ce qu'il risque d'annoncer, c'est que le pass sanitaire, qui aujourd'hui est instauré jusqu'au 15 novembre, je pense qu'il risque d'annoncer que le pass sanitaire est prolongé de plusieurs semaines, peut-être jusque après les vacances de Noël et Nouvel An. Il en a la faculté juridique aujourd'hui, puisque le Parlement vient de voter la possibilité de le prolonger jusqu'à juillet 2022, sans avoir à repasser par un vote parlementaire, etc. Donc, il en a la possibilité juridique. Mais est-ce qu'il va le faire ? Moi, je pense que avec la courbe épidémique et les risques...
Sauf que le Sénat a retoqué la prolongation.
Ah non, le Parlement vient de le... Non, le Parlement vient de le... En deuxième lecture, parce que vous savez que l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot.
Oui, jusqu'au 31 juillet, oui.
Voilà, donc le Parlement a maintenant officiellement, depuis ce matin, validé ce choix gouvernemental. Et donc, il en a la faculté. Et donc, je pense que mardi, en s'adressant aux Français, il risque fort d'annoncer une prolongation du pass sanitaire. Et peut-être va-t-il aussi annoncer...
Troisième dose ?
Et la troisième dose.
Oui.
Et je pense en fait que ce qui est en train de nous arriver, c'est la chose suivante. Comme pour la grippe, où on doit se vacciner tous les ans, dès qu'on a un certain âge, dès qu'on est en situation de risque, etc.
Oui.
Je me demande très sérieusement si il va pas falloir qu'on s'habitue à faire une piqûre de rappel, c'est le cas de le dire, avec une troisième dose, et puis un an après ou six mois après, une quatrième ou une cinquième dose, parce que malheureusement, on n'en a pas fini avec le Covid. Et que le Covid, ça va être un peu comme la grippe, c'est-à-dire par période hivernale ou estivale, il faudra faire une piqûre de rappel. Il faut quand même pas oublier que toutes les études prouvent que les personnes vaccinées, la protection qu'offre le vaccin, elle diminue au fil de plusieurs mois. Et donc, comme il y a une atténuation de l'effet protecteur, notamment contre les formes graves du Covid, eh ben, on risque d'avoir de nouveau besoin de se revacciner. Et donc, je pense que ça risque d'être la deuxième annonce du chef de l'État mardi, c'est d'appeler très fortement les Français à faire une piqûre de rappel, cette fameuse troisième dose, parce que, encore une fois, il y aura un risque d'exposition à une contamination et à des formes graves si on ne va pas dans cette direction. Dernier point, c'est les gestes barrières. Porter le masque plus souvent. Il a été réintroduit dans 40 départements de France pour les établissements scolaires et d'apprendre de bien se laver les mains et de respecter les distances. Tout ça, malheureusement, on est en train de se rendre compte qu'on n'en a pas fini avec le Covid et que si on veut continuer à vivre normalement, eh ben, il va falloir continuer à se vacciner régulièrement et à pratiquer ces gestes barrières. Bref, le Covid, c'est comme un sparadrap dont on n'arrive pas à se détacher, et nous-mêmes, et Emmanuel Macron, qui peut-être voulait annoncer autre chose, voire pourquoi pas une candidature avec son président. Eh ben non, il va nous reparler du Covid comme il avait été contraint de le faire le 12 juillet dernier.
Eh bien, merci voilà pour ce billet d'humeur. Voilà. Écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et on verra et on vous dira si effectivement ce que vous avez pressenti est tout à fait reflète la réalité de mardi prochain. Merci mon cher Michel Taube, le patron merci d'Opinion Internationale. Je vous souhaite un bon week-end.
Bon week-end à tous les auditeurs de Beurre FM.
Bon week-end à vous, 19h39. Pardon. On va marquer une courte pause pub. On se retrouve tout de suite après, justement, le laboratoire Pfizer qui annonce que sa pilule anti-Covid est efficace à 90%, 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites plus confiance à une pilule qu'à un vaccin? 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h45 et le débat continue, vous le savez, y compris pendant la pub, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Je voudrais vous entendre aussi au 01 53 48 3000, pardon, le laboratoire Pfizer qui annonce que sa pilule anti-Covid est efficace à 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès. Justement, on en parle. Est-ce que vous faites plus confiance à une pilule ou à un vaccin? On en parle au 01 53 48 3000. Alors, messieurs, Farid Tamsamani, qu'est-ce qui vous arrive?
Ben, je suis là.
Ah bon? Et vous aussi là? Non, mais il est tendu.
Il réfléchit,
hein.
Il est dans la
Il est tendu, Amit. Il est aujourd'hui.
Non, je suis pas tendu.
On va lui mettre le générique d'Emmanuel Duplier.
Discuter en prof, moi.
Tiens, mets-lui le générique.
Il est d'accord avec moi.
Voilà. Voilà. Vas-y, continue. Vas-y, il a besoin de.
Ah, j'aime bien.
On est vendredi soir.
Il est content, Farid, hein?
Voilà.
La vraie culture musicale.
Voilà, exactement. Parce que là,
c'est là qu'on voit que le producteur est.
Voilà, exactement. On avait besoin de détendre un peu l'atmosphère. On est vendredi, tranquille, les amis. Passe sanitaire. Alors, cette histoire de passe sanitaire, avec notamment le Sénat qui rejette en bloc le projet de loi permettant de le prolonger, même sans l'examiner. Alors, parlons-en justement.
Et qui ont décidé de saisir le constitutionnel, la droite, mais les partis politiques.
Allez-y.
D'abord, il y a eu plusieurs amendements. Aujourd'hui, il y a les chefs d'établissement qui auront le droit de lever le secret médical par rapport aux étudiants. Donc ça, par rapport aux élèves, pardon. Donc ça pose un vrai problème déontologique.
Ça sera retoqué probablement, ouais.
D'accord. Voilà, mais tu ne disais pas ça au début, tu disais sur le pass sanitaire. Sur la
là, tu mélanges les choses, là, on parle pas.
Je ne mélange pas, c'est un package.
On parle d'une date.
C'est un paquet.
Ah, ok, d'accord.
Le package, soit tu le prends, soit tu le prends pas.
Ah, ok.
Alors,
quand on prend pas, il faut faire quoi?
Bah, dans une loi, c'est un package avec des amendements. Juste au début, tu dis que tu soutenais cette loi. Et maintenant,
qui a dit que je soutenais cette loi?
Tu disais que c'était bien. Il y avait un amendement qui n'avait pas de démocratie.
C'était bien, c'est
est-ce
pas
que
soutenir,
c'est démocratique?
Non,
est-ce que c'est démocratique?
Ne défends pas mes propos, moi je défends pas tes propos.
Allez-y, messieurs.
Est-ce que c'est démocratique?
Écoutez-vous,
j'aimerais juste entendre. Sois très clair. Sois très clair, surtout quand tu fais référence à ma personne.
D'accord,
je suis très clair. Donc moi, je suis gentil avec toi. Sois très clair quand tu reprends mes propos, d'accord?
Oui.
Je n'ai jamais dit que je soutenais quoi que ce soit dans une loi ou quoi que ce soit. Je ne suis pas député. Je t'ai dit exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcé les députés à voter quoi que ce soit.
D'accord.
Les gens le font en leur âme et conscience.
C'est vrai.
Maintenant,
vous avez dit ça,
non, mais il faut que tu sois précis. On parle du Parlement.
On est à la radio.
En vérité, et tout à l'heure, Monsieur Daube l'a parfaitement exprimé. C'est qu'il y a quoi? Il y a le Sénat qui ne voulait pas entendre parler d'une date aussi lointaine. Pourquoi? Parce que ce qui pose problème, en réalité, c'est qu'on enjambe l'élection présidentielle.
Bah, c'est ce que
donc voilà, ça s'appelle de la politique.
Merci. C'est là-dessus c'est pas ce que tu disais. C'est pas ce que tu disais au début. Tu t'avais l'air étonné.
Ah
quand je parlais de l'élection présidentielle, le pass sanitaire est utilisé, le prolongement du pass sanitaire est utilisé pour l'élection présidentielle. Tu le réfutais.
Mais j'ai jamais réfuté, jeune homme.
Voilà. Tu secouais la tête, en tout cas. Non. Moi, je comprends pas.
Ah, non, mais.
Donc, il faudrait des caméras dans mon cerveau.
Secouer la tête ne veut pas dire forcément.
Secouer la tête, ça veut dire
dans mon cerveau. Vous savez, il secoue la tête, ça veut pas dire.
Non, mais on va mettre des caméras dans les têtes.
Parce que tu parles.
S'il vous plaît, messieurs, écoutons-nous. Alors, cette histoire de passe sanitaire, Farid Tamsamani, je voudrais entendre, justement, quel est l'enjeu de ce passe sanitaire, parce que j'ai bien compris, retoqué par retoqué, il n'est pas là. C'est l'enjeu, il est quelque part. On l'a bien compris, on l'a bien saisi. La campagne présidentielle arrive, ça y est. Elle prend forme. Est-ce que c'est ça?
Bah, je pense qu'il y a premièrement une histoire il faut protéger au maximum les Français. Et puis après, on va pas se mentir. Enfin, pour un certain nombre d'analystes, c'est qu'on rentre dans une campagne électorale et c'est ce qui pose problème. C'est-à-dire que le président de la République, il a deux casquettes. Il a une casquette de président de la République sortant et en même temps, il a une casquette probablement de candidat. Donc, effectivement, ça peut poser problème. Cette loi cette loi-là qui fait que, en fait, on repousse l'application du pass sanitaire. Oui. En fait, elle pose problème chez un certain nombre de personnes, à juste titre, c'est qu'elle enjambe l'élection présidentielle. Je dis juste que c'est pas la première fois, puisque François Hollande, si je dis pas de bêtises, les anciens présidents de la République, en fait, avaient fait quasiment la même chose sur des sujets qui étaient complètement différents que la pandémie actuelle, notamment sur l'aspect terrorisme et si je dis pas de bêtises j'ai oublié le terme mais ça peut arriver d'enjamber l'élection présidentielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est président, on gère un État. D'accord, on est d'accord, pas d'accord avec lui, ça c'est une chose. Mais donc du coup, à un moment donné, les choses, ça ne s'arrête pas au 31, enfin à l'élection présidentielle, c'est-à-dire fin avril prochain. Donc il faut bien prendre des décisions. Les gens sont quand même payés, oui. Qu'on change, ça s'appelle la démocratie, qu'on change de président ou pas. En réalité, il y a une continuité de l'État. Donc je pense que c'est ça logique. Après, on va pas se mentir, c'est un calcul politique également. Donc voilà, moi je
pense. C'est un calcul politique que le Sénat soit opposé frontalement au gouvernement.
C'est pas de la démocratie. Non, c'est un passage en force.
Passage en force.
Encore une fois, je répète, la démocratie, vous savez,
faut pas bien dans le micro. Ouais.
Nous avons eu une crise sociale des gilets jaunes majeure.
Oui, c'est vrai.
Majeure dans ce pays-là.
Absolument.
Il y a une crise sociale. Les hôpitaux ont été fermés. 5 000 hôpitaux fermés, effectivement. Ce gouvernement ne comprend pas, n'a pas tiré des leçons.
Passage en force.
Passage en force. Ça nous a pas échappé aujourd'hui que la 5e République est finie et morte. Nos institutions aujourd'hui.
Ah bon?
Je ne sais pas.
Vous
savez que les députés sont élus à combien aujourd'hui?
Soyons factuels, c'est-à-dire
Les députés, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les députés sont élus avec un taux de pourcentage très faible. Le taux d'inscription aujourd'hui dans les listes électorales, très faible. Donc ces députés.
Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un divorce.
Mais c'est les députés eux-mêmes qui le disent.
Les habitants.
C'est les députés eux-mêmes qui le disent.
Non, mais qui empêche les gens d'élire d'autres députés?
Parce que le système,
il y a
les institutions,
c'est ce que j'ai compris. Moi.
Attendez. Pour être président de la République, il faut avoir 577 parrainages, il faut avoir des financements énormes.
Bien sûr, attends,
c'est facile. Tu me lances comme ça, des pavés à la main.
Non, mais excuse-moi,
tu es d'accord avec moi.
Mais c'est toi qui dis.
Excuse-moi,
utilise les bons termes dans ces cas-là. Je dis pas passage en force.
Passage en force, oui.
Passage en force, je suis désolé.
Bien sûr.
Que tu le veuilles ou non, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et les gens ont.
Quand on piétine la démocratie, quand on ébande des gens dans la rue, c'est pas un passage en force? Quand on est élu à peu près à 23%, avec un taux d'abstentionnisme énorme, que représente le représentant de la République?
Tu parles de 23%.
Est-ce que ta conception de la démocratie, c'est simplement.
C'est quoi la démocratie? Explique-nous ce que c'est la démocratie.
La démocratie, c'est démos, kratos, pouvoir au peuple.
Et alors, donc le pouvoir, il n'est pas au peuple?
Non, bien sûr que le pouvoir n'est pas au peuple.
Ah bon, il est acquis?
Bien évidemment.
On n'est pas une monarchie en France?
Ah bon, le pouvoir présidentiel n'est pas monarchique aujourd'hui?
À ma connaissance, il n'y a pas de transmission génétique en France.
Bon, en tout cas, vous êtes le seul à penser ça aujourd'hui.
Ah, d'accord, donc
Emmanuel Macron,
Tous les constitutionnalistes, les experts, le passage en force, c'est ça que vous dites.
Il dit un certain nombre de vérités. Il y a un désamour des Français vis-à-vis de la politique, ça c'est une
clairement un divorce.
Ça, il n'y a pas de souci. Mais dire que c'est un passage en force, c'est comme si on forçait les gens à voter quelque chose.
Bah oui. La majorité aujourd'hui vote comme des moutons, bien évidemment. Bon. Aujourd'hui, les gens. Bon. D'ailleurs, il y a des députés LRM. D'ailleurs, il y a des députés LRM qui sont sortis du parti politique. Tu sais très bien
aujourd'hui
dans un parti politique.
Ils sont combien?
Mais tu sais très bien aujourd'hui dans un parti politique.
Ils sont combien?
On suit la tendance. Si on ne suit pas la tendance.
Donc le président de la République n'a pas de majorité.
Pardon?
C'est ça le débat.
Le président de la République n'a pas de majorité.
Il y a une majorité, effectivement, avec ce qu'il y a aujourd'hui. Avec
je crois que c'est un passage en force.
C'est un passage en force avec le paysage politique qu'il y a aujourd'hui, mais il ne t'a pas empêché de savoir qu'aujourd'hui, il y a une crise sociale. Mmh. La majorité aujourd'hui des Français ne vote pas. L'abstentionnisme, c'est le premier parti politique.
Tu as raison.
Français. Non, mais laisse-moi terminer. Je sais, j'ai beaucoup raison et j'aurai encore raison.
C'est très fort.
Le
premier parti, c'est l'abstention. Il a raison.
Et donc, par conséquent, aujourd'hui. Tu dis, toi, qu'il n'y a pas effectivement de problème démocratique dans nos institutions aujourd'hui. Il y a un malaise social, il y a un malaise démocratique. Nos institutions aujourd'hui ne sont pas en adéquation.
Malaise, c'est pas en force, hein, pas la même chose.
Le passage en force, je parle du pass sanitaire n'est qu'un outil dans nos institutions, dans le système tel qu'il est figé aujourd'hui. Les institutions de nos pays aujourd'hui ne permettent pas l'émancipation démocratique des citoyens français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
faisons la révolution.
Citoyens français. Je parle pas de révolution. Moi,
la
je suis pas
la sixième. T'as dit que la cinquième était morte.
Une catégorie dans l'extrême gauche.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui,
c'est qu'il y a pas l'extrême gauche qui est dans ce sens.
Je vois bien votre jeu là. Moi, je ne jouerai pas ce jeu là. Je ne rentre pas dans ce jeu là.
C'est toi qui parlais de.
Je vois bien votre jeu, monsieur, mais vous allez pas me.
Je pense que vous parlez de la même chose.
Vous me piégez, monsieur Farid Temsamani.
Passage en force. Donc, moi, ce que je vous dis, vous convient pas.
C'est que le régime actuel ne permet pas effectivement de donner des outils aux citoyens français afin de d'élever le débat et de permettre aux citoyens de mieux aujourd'hui s'émanciper dans l'État-nation et au sein de cette République française
face
que nous aimons tant
très bien.
Face et que nous défendons.
Ce face-à-face a bloqué, moi je l'aurais compris, sur un mot.
En force.
C'est Tassali qui a fait une obsession.
En force. Sur merci. Attendez, c'est intéressant. C'est le réalisateur Yanis, il vous remet ça là. Non, mais vous va.
On a un certain nombre d'auditeurs. Non, mais certainement, on a des auditeurs qui ont leur dictionnaire.
À chaque fois, il y aura un clash, on mettra ça. Allez, on va remettre le générique de Rambo. Deuxième, c'est pas Rambo, Rocky. Rocky.
Oui.
Merci à Farid Temsamani.
Merci à vous.
On vous retrouve bientôt ici.
En tout cas, c'était
un grand plaisir.
Non, c'était très bien. Non, mais attendez. C'est aussi ça, le face-à-face, messieurs.
Mais oui.
Ahmed Shriat, à bientôt.
Merci beaucoup.
Avec autant de plaisir la semaine
prochaine. Plaisir.
Je vous souhaite un excellent week-end. Time Sport. Il est où, Bilal? Allez, cherchez-moi Bilal dans les couloirs. Il n'est pas là. Ouais, c'est vrai, il n'est pas là. Il va arriver, il est au téléphone. Je vais donner son programme.
Tiens. Très belle musique, hein. Franchement,
exactement, hein. C'est le clash justement. Les clubs français, ensuite le derby de Manchester.
Ah, vous inquiétez pas.
Samedi, nous allons en parler, c'est Thème Sport, 20h, 21h. Messieurs, bon week-end.
Merci également.
Merci.
On ne lâche rien. Bon week-end à vous. À la réalisation, c'était Yanis et Joe. Ciao, à lundi. Prenez soin de vous.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.